Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On vous souhaite un excellent réveil à 4h57 et 20 secondes. Le soleil commence un peu à pointer l'horizon. Je regarde par la fenêtre du studio et nous sommes déjà sur le pont pour vous informer jusqu'à 6h30.
Et on en profite pour envoyer une bise avec la main là. En direction de tous les Paul et les Pierre qui nous écoutent ce matin, puisque c'est votre fête. Nous sommes le 29 juin, à la une, Julien.
Le verdict du procès des attentats du 13 novembre, la cour d'assises spéciale de Paris doit rendre ses décisions a priori aujourd'hui et ainsi conclure l'audience criminelle la plus longue de l'histoire judiciaire française d'après-guerre.
10 mois de débat, 20 accusés, dont 14 présents, 2500 parties civiles, c'est l'épilogue d'un procès hors norme.
Procès que couvre depuis le début Gladys Lafitte, notre journaliste spécialiste police-justice, qui a rencontré le père de l'une des 130 victimes assassinées le soir du 13 novembre.
Comment ce procès a-t-il été vécu de l'intérieur ? A-t-il permis à la vérité d'éclore, d'apporter un peu de réconfort ? C'est un témoignage très fort que vous entendrez. Rendez-vous à 6h10.
Avant cela et dans un tout autre registre, on va vous parler de ce matin de ces eaux pétillantes, aromatisées et alcoolisées appelées hard seltzer.
Hard pour alcoolisé par opposition au soft, comme les sodas, des boissons vendues dans des packaging colorés et attractifs qui séduisent de plus en plus la jeunesse française. Leur goût sucré nous fait oublier qu'elles contiennent de l'alcool, ces boissons. 5% en général, comme une bière.
Et c'est l'aspect désaltérant des boissons qui est mis en avant par les marques.
Oui, elles se veulent naturelles, bio, modernes, avec moins de sucre, soi-disant. Et elles bénéficient d'une publicité intense sur les réseaux sociaux.
Et sans message de prévention, comme le dicte pourtant la loi Evin, des pratiques commerciales trompeuses dénoncées par l'association l'UFC Que Choisir, mais aussi par votre invité à 5h45, combien.
Franck Leca, le responsable du pôle loi Evin à Addiction France.
Votre menu pour la partition à 6h20.
12 ans d'amour passionné explosif, Jane Birkin et Serge Gainsbourg.
Quoi ? Notre amour fou ne resterait qu'au.
C'est après leur séparation en 1980 qu'il va lui écrire ses plus belles chansons, la partition à 6h20.
On commence avec la météo. Bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin. Vous signalez les Pierre et les Paul aujourd'hui. Et moi j'en profite pour embrasser les Jade aussi. C'est leur fête aujourd'hui, le jour de la Saint-Pierre.
D'accord. Bon.
Bisous Jade.
Bisous à toutes les Jade, à tous les Paul, à tous les Pierre. Est-ce que le soleil s'installe ?
Oui, ça y est, le soleil s'installe. On se dirige vers une belle journée estivale. Alors comme d'habitude, nous avons des petits bémols. Suite à la perturbation d'hier, il reste encore quelques nuages sur l'est du pays, entre l'Alsace, les Vosges, les Alpes, suite aux orages d'hier. Donc le long de la façade est ce matin, on a des nuages qui pourraient lâcher encore ce matin 2-3 gouttes, mais rien de bien méchant. Et puis, deuxième bémol de la journée, dans le nord-ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, sur l'ouest du bassin parisien, l'Orléanais, on a un ciel un petit peu plus nuageux, avec des averses qui arrivent dans l'après-midi. Donc, si vous nous écoutez et que vous n'êtes ni entre l'Alsace et les Vosges et ni sur le Grand Quart Nord-Ouest, c'est du grand soleil pour vous, une très très belle journée. Les températures ce matin, grand contraste hein, encore. 8 à Aurillac, 15 à Paris, 21 à Marseille, cet après-midi, 17 à Brest, 24 à Bordeaux, 27 à Paris et 34 à Nîmes.
Merci beaucoup Anissa Dadi, à tout à l'heure pour une nouvelle météo. Excellent réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Et à la une de ce mercredi, la Turquie lève son veto. La Suède et la Finlande vont finalement pouvoir intégrer l'OTAN. L'alliance réunie à Madrid va donc se renforcer. On y revient dans un instant avec notre envoyé spécial. L'heure du verdict au procès des attentats du 13 novembre 2015. 10 mois d'audience, le procès le plus long de l'histoire française. Nous ferons le bilan dans ce journal. Et puis, 147 000 cas de Covid hier en France. La 7e vague de l'épidémie se confirme. Déferlera-t-elle sur le peloton du Tour de France ? C'est ce que redoutent les coureurs alors que le protocole sanitaire a été allégé sur la grande boucle.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal, c'est avec Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. C'est un signal très fort envoyé à l'Ukraine et contre la Russie. La Suède et la Finlande vont rejoindre l'OTAN. Première annonce majeure du sommet qui se tient en ce moment à Madrid. Jusqu'ici, la Turquie disait non, mais le pays a enfin levé son veto dans la soirée. Écoutez Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN.
Nous venons de terminer une réunion très constructive avec le président Erdogan, le président Niinistö et la première ministre Andersson. Et je suis heureux d'annoncer que nous avons maintenant un accord qui ouvre la voie à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. La Turquie, la Finlande et la Suède ont signé un mémorandum. qui répond aux préoccupations de la Turquie, notamment en ce qui concerne les exportations d'armes et la lutte contre le terrorisme.
L'OTAN qui comptera donc bientôt 32 membres. William Molinier, vous suivez le sommet depuis Madrid pour Europe 1. Cet accord avec la Suède et la Finlande, on peut le dire, est historique.
Oui, parce que jamais deux pays ne seront rentrés dans l'OTAN en aussi peu de temps. L'accord trouvé est relativement simple. Stockholm et Helsinki s'engagent à coopérer avec Ankara sur le dossier sensible des militants kurdes du PKK, organisation considérée comme terroriste par la Turquie. Ils n'imposent pas d'embargo sur les industries de défense et en échange, les Turcs n'opposent pas leur droit de veto. Washington a juré qu'aucune concession n'avait été demandée aux Américains. Précision importante car ces derniers jours, les Turcs étaient accusés à demi-mot de faire chanter les Américains pour renforcer leur flotte d'avions de chasse. L'OTAN va donc proposer officiellement aujourd'hui à la Suède et à la Norvège de la rejoindre. Chaque pays membre devra ensuite ratifier cet accord. Militairement, ce sera quasiment une formalité d'intégrer les soldats des deux pays à l'Alliance car les procédures militaires de la Suède et de la Finlande sont déjà d'un bon niveau et très proches des standards de l'OTAN.
William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 à Madrid pour le sommet de l'OTAN.
Retour en France, jour de verdict ce mercredi au procès des attentats du 13 novembre. Après 10 mois d'audience, dénouement du procès le plus long de l'histoire française. C'est le moment de faire le bilan. Gladys Laffitte, c'est vous qui avez suivi les audiences pour Europe 1 ces 10 derniers mois. Est-ce que la justice a été à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle ?
Oui, un bilan plutôt positif. Le procès s'est déroulé sans accroc majeur et presque dans les temps car le Covid a touché la moitié du box des accusés et donc l'audience a pris 5 semaines de retard. En tout cas, et les accusés et les parties civiles ont salué la tenue du procès par le président Jean-Louis Périès qui partira ensuite à la retraite. 10 mois où la police de l'audience n'a pas toujours été facile à faire, où il a fallu gérer les caractères, créer un lien avec Salah Abdeslam, ne pas montrer ses émotions. Mais quelques critiques lui sont quand même faites, notamment par des avocats de la défense comme Raphaël Kempf.
Le président n'a, cherché par aucun moyen à forcer un peu la venue de ses témoins, dont on espérait qu'ils viennent à cette audience, notamment des témoins belges. La principale préoccupation de Périès n'est pas tant le respect absolu des droits de la défense, plutôt la tenue d'un planning et la volonté d'éviter tout incident diplomatique.
Au niveau logistique, en tout cas, l'accueil et la prise en charge des centaines de parties civiles a été unanimement salué là aussi. La sécurité n'a pas fait défaut non plus. Un test grandeur nature pour les autres grands procès, à commencer par celui de l'attentat de Nice qui doit commencer en septembre prochain.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. L'audience doit donc reprendre à 17h aujourd'hui. Des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible ont été requises à l'encontre des accusés.
5 heures passées de 5 minutes sur Europe 1. C'est une première dans l'histoire. L'Assemblée nationale présidée par une femme, Yaël Braun-Pivet, accède au perchoir.
Ministre éphémère des Outre-mer, députée des Yvelines depuis 2017, présidente ces 5 dernières années de la commission des lois de l'Assemblée. En bref, une femme au parcours politique fulgurant, émue hier lors de son premier discours devant un hémicycle divisé. Yaël Braun-Pivet reste consciente de l'enjeu.
Personne n'est entré dans cet hémicycle sans émotion, sans ressentir l'histoire dont ces murs sont empreints, l'histoire de la République, qui s'est forgée en ce lieu à nul autre pareil. Bien sûr, j'en ai conscience, j'accède à cette fonction dans un moment particulier de notre vie politique. La configuration de notre Assemblée est inédite. Les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre. Ils nous ont choisis, ils nous ont élus, et nous partageons, quelles que soient nos différences, une responsabilité, celle de répondre à l'espoir que cette Assemblée, qui a le visage de la France, a fait naître chez nos concitoyens.
L'élection de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée fait réagir l'opposition. Fabien Roussel salue cette victoire d'une femme. Que ce fut long, déclare le leader communiste, tandis que Jean-Luc Mélenchon dénonce des petits arrangements d'amis.
La première séance de l'Assemblée nationale qui, comme le prévoit le règlement, a été inaugurée par le député le plus âgé de l'hémicycle.
José González, 79 ans, élu Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, a créé la polémique pour son discours à l'évocation de sa terre natale, l'Algérie, à laquelle je site. Il a été arraché en laissant là-bas une partie de sa France au moment de l'indépendance. La présidente du groupe Insoumis, Mathilde Panot, dénonce un discours révisionniste.
Dans les Pyrénées-Orientales, à présent, un violent incendie entre les communes d'Opoule-Périos et Salses-le-Château.
1000 hectares de végétation partis en fumée. Les services de secours ont indiqué cette nuit que le feu ne menaçait plus les habitations. Plutôt 300 personnes ont été évacuées, dont 80 vacanciers d'un camping. 600 foyers ont rencontré des problèmes d'électricité.
Sur le fond de l'épidémie de Covid à présent, après les transports en commun, le gouvernement recommande désormais de porter à nouveau le masque dans les lieux clos.
Demande d'Elisabeth Borne, la première ministre, lors d'une réunion avec les préfets et directeurs des agences régionales de santé hier, alors que la 7e vague semble s'installer avec 147 000 nouveaux cas hier. Elisabeth Borne qui se rend par ailleurs aujourd'hui au siège du planning familial où elle évoquera la nécessité de protéger le droit et l'accès à l'avortement en France.
La menace Covid qui plane aussi sur le Tour de France à 48 heures du grand départ.
Et dès hier, le coureur belge Tim De Clercq a dû abandonner après avoir été testé positif. Jean-François Pérez, on commence à s'inquiéter chez les cyclistes.
Oui, et les propos de Romain Bardet sur les réseaux sociaux n'ont rien arrangé. Embarqué dans un avion bondé, écrit-il, quand 90% des passagers ne portent pas le masque, premier stress test. Le forfait quelques heures plus tôt de Tim De Clercq avait réveillé de mauvais souvenirs, ceux des deux dernières éditions en mode bulle sanitaire, éloigné du public, avec une suspicion permanente. Le récent meilleur grimpeur du Dauphiné, le français Pierre Roland, s'en serait volontiers passé.
On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et j'ai vraiment le sentiment qu'on ne l'a jamais eu aussi fortement, quoi, parce que les autres années, avant que le tour s'élance, ça s'était quand même calmé et là il y a un rebond qui est assez violent mais voilà, faut faire avec.
Ce rebond violent, c'était lors du Tour de Suisse il y a 10 jours. 36 coureurs avaient dû se retirer en pleine course, tous positifs, la plupart asymptomatiques. Le protocole s'annonce plus souple sur la grande boucle, plus d'exclusion systématique en cas de test positif. La situation sera examinée au cas par un comité de 3 médecins. Depuis le début de la pandémie, aucun coureur n'a été testé positif durant le Tour de France.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.
On finit ce journal avec du tennis. À Wimbledon, 6 Français qualifiés hier pour le second tour.
Richard Gasquet, Hugo Grenier, Benjamin Bonzi et Hugo Gaston. Chez les dames, Serena Williams s'est fait sortir par Harmony Tan et Alizé Cornet, qualifiées face à Yulia Putintseva. À suivre aujourd'hui, début du second tour avec notamment Hugo Humbert, Casper Ruud, Quentin Alis, Nicolas Basilashvili ou encore Djokovic Kokkinakis.
Ça va être rude pour Hugo Humbert. Ouais. Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal. À tout à l'heure.
Il est 5h09 et ce sont à présent les courses de Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vichy et mon pari gagnant sera le 803 Dénicheur du Vif, désormais entraîné par Laurent-Claude Abrivard. C'est son propriétaire Émeric Thomas qui va le driver cet après-midi et nul doute qu'au vu de la démonstration réalisée en dernier lieu le 18 juin sur l'hippodrome d'Enghien, ce trotteur âgé de 9 ans devrait pouvoir doubler la mise, empocher les quelques 21 600 euros offerts au vainqueur et franchir ainsi la barre symbolique des 400 000 euros de gains. Notez bien pour Vichy, réunion 1, dans la 8e course, le numéro 3, Dénicheur du Vif.
Dénicheur du Vif, le numéro 3. Merci beaucoup Thierry Léger. Vous revenez avec vos pronostics du Quintet dans une petite demi-heure. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h11, précisément l'heure du pressing. Et avec nous autour de cette table, Johan Tritz.
Bonjour Johan.
Bonjour à vous deux, bonjour à tous.
On commence avec vos journaux qui sont nombreux à consacrer leur une, évidemment, au procès des attentats du 13 novembre, dont le verdict est attendu aujourd'hui. Les leçons d'un procès historique, titre Le Parisien aujourd'hui en France. L'humanité a gagné, ajoute Libération, avec pour illustration un couple enlacé, très jolie photo. Et puis la grande famille des victimes, conclut La Croix, alors que les parties civiles ont noué des liens amicaux au fil des 10 mois de ce procès. Omblin, on commence avec vous. Quel article vous a tapé dans l'œil ce matin ?
Des Anglais châtelains dans le Limousin, c'est-à-dire dans le Figaro. La campagne française a à nouveau la cote auprès des Britanniques, au point d'en faire une télé-réalité suivie par 1 million de téléspectateurs outre-Manche depuis 2016. Dans ce programme, on suit les péripéties des couples qui se sont lancés dans la rénovation de grandes demeures françaises. Ça s'appelle Escape to the Château et c'est diffusé également en Australie, aux États-Unis. C'est marrant parce qu'on n'imagine pas du tout ce programme Escape Frenchie New Yorkshire. Je suis pas sûre que ça marche. Dans la dernière saison, 4 châteaux dans le Limousin étaient à l'honneur. On fait la connaissance par exemple de Ben, avocat, Vanessa, banquière, qui ont eu un coup de cœur pour le château de Jolibois situé dans la Creuse. Alors ils ont le profil type des Anglais qui ont sauté le pas et franchi la frontière, hein, des quarantenaires avec des moyens. On l'a compris, ils ont un petit peu d'argent ces gens. Oui. Ce château du 19e siècle situé sur la charmante commune de Bussière-Dunoise leur a coûté 400 000 euros à l'achat. Durée estimée des travaux, 12 ans. Donc il y a beaucoup, beaucoup de travaux.
Et 400 000, le montant des travaux ?
On ne l'a pas, parce qu'ils ne peuvent pas l'estimer, ah. Puisqu'à chaque fois, chaque année,
trois fois le prix de la, de
des travaux se rajoutent. Ouais.
Donc en fait, tu il faut 400 000, pas, ça va en fait.
Il ne faut mais pas regarder le 400 000 euros d'achat, exactement. Mais tout le monde est heureux, nos amis britanniques, qui nous expliquent décomplexés qu'avec 400 000 euros, ils se seraient retrouvés avec une petite bicoque dotée de deux chambres parce seulement vrai, oui. Dans la campagne anglaise. Là, ils en ont 14 hein, quand même. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de 14 chambres. Les habitants sont ravis. Eux aussi, ça fait vivre le bourg, c'est bon pour l'économie locale, la supérette reste ouverte et souvent ces nouveaux voisins anglais font appel aux artisans locaux. Aujourd'hui, la demande est supérieure à l'offre, il faut dire que ce n'est pas la pub qui manque. Le Limousin se retrouve régulièrement à la une du magazine The Good Life France. Il y a un magazine qui s'appelle The Good Life France en Angleterre. Superbe vitrine de l'Hexagone à destination des touristes anglais et de ceux qui souhaitent donc investir. D'ailleurs, à la différence des Belges, des Allemands ou des Hollandais, on apprend que les Anglais sont intéressés pour faire surtout du business quand ils achètent un château français, le louer ou faire des chambres d'hôtes. Après une baisse des ventes dans les années 2010 à cause de la crise financière, le marché est reparti à la hausse. Les chiffres
aussi,
cette
hein.
année, oui, alors, les, oui bah alors du coup, ils revendent beaucoup, les Anglais, et ils revendent à des Français. Mais il y a un vrai marché autour de ça. En tout cas, sachez que les chiffres cette année sont meilleurs que l'an dernier. Donc ça fonctionne encore toujours très bien. Welcome, dear English friends. Les Anglais repeuplent les châteaux français et il existe même un programme de télé-réalité qui les suit dans leurs aventures Frenchies. C'est dans le Figaro.
Merci, Omblyne. À vous, Johan.
Oui, alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lucielle, une lycéenne de 18 ans dans le sud-ouest de la France. Et comme 700 000 autres candidats, elle a passé son bac cette année. L'an prochain, ce sont donc les études supérieures qui l'attendent. Est venu donc le moment de faire ses vœux sur le fameux parcours supentice de tous les lycéens. Lucielle fait son choix, mais oups, elle se trompe et sélectionne sans faire exprès une licence qu'elle ne voulait pas en droit santé à Bordeaux. Et pour éviter d'être prise, elle décide de faire une lettre de motivation plutôt originale. Elle envoie la recette du russe, une pâtisserie béarnaise. C'est un biscuit avec crème au beurre au milieu pour les plus gourmands et curieux d'entre vous. Elle accroche même avec une citation de Coluche. La cuisine anglaise, c'est, si c'est froid, c'est de la soupe. Si c'est chaud, c'est de la bière. Puis elle enchaîne avec les ingrédients tout en mêlant le second degré. Bon, a priori, rien à voir avec le droit santé, mais son but est de tester la plateforme d'orientation. Une plateforme piégée, car lorsque la réponse tombe, elle est positive. Parcoursup, donc, roulée dans la farine.
C'est-à-dire qu'elle est prise ?
Elle est prise, oui. Ah, oui. Oui, réponse positive. Cette blague montre aux gens que les facs ne regardent pas les lettres de motivation, alors que l'on passe du temps à les écrire, dit-elle. Très active sur les réseaux, elle a décidé de filmer le moment de sa rédaction et ensuite de son acceptation sur le réseau social TikTok. Et c'est un carton, 2 millions de vues. Alors qu'il est, cela a fait réagir d'autres lycéens qui n'ont pas été accepté dans cette licence, battu par une recette de cuisine, peut-on lire en commentaire. Un autre répond, moi j'ai juste écrit « prenez-moi » et j'ai été accepté. Une manœuvre qui montre tout de même les limites de Parcoursup où ce sont surtout les notes qui comptent. Les équipes pédagogiques noyées sous les demandes n'ont pas le temps de lire toutes les lettres de motivation. Ce ne sont pas les facs qui sont à blâmer, conclut Lucielle, mais plutôt le système Parcoursup. Pour le moment, il n'y a eu aucune réaction du rectorat de Bordeaux. Personnellement, j'attends moi un petit retour, au moins pour savoir si le gâteau était bon.
Ah oui.
Merci beaucoup Johan. Vous avez probablement vu hier soir ces images nous venant du Palais Bourbon avec nos 577 nouveaux députés découvrant l'hémicycle. Alban nous en parlait il y a quelques minutes. Et ce visage qui s'affiche tout juste sur tous les journaux ce matin, celui de Yael Braun-Pivet, tout juste élue présidente de l'Assemblée nationale, première femme de l'histoire à occuper ce poste. Eh bien, une autre première a eu lieu hier, nous apprend Le Point. Alors je vous préviens tout de suite, hein, l'événement est de moindre portée, mais pour autant, il n'est pas totalement anecdotique. Deux jeunes hommes, prénommés Kevin, ont fait leur premier pas de député. Oui, c'est une première dans l'histoire de la 5e République. Jamais un Kevin n'avait jusqu'ici siégé au Parlement. Le premier s'appelle Kevin Pfeffer, 31 ans, il vient de Moselle. Et le deuxième, Kevin Mauvieux, 30 ans, originaire de l'Eure. Tous deux ont été élus mi-juin sous la bannière du Rassemblement National. Et c'est un événement, oui, parce que tant ce prénom est parfois moqué et méprisé dans notre cher pays. Kevin écrit avec un accent aigu sur le « est en France une étiquette sociale. Ce prénom irlandais, qui veut dire beau garçon en gaélique, a décroché de 1989 à 1994 la palme du prénom les plus donnés chez les garçons. Un phénomène que l'on doit à deux acteurs, là aussi très différents. Kevin McAllister, c'est le petit blondinet de Maman, j'ai raté l'avion.
Ah oui.
Et Kevin Costner, le ténébreux lieutenant nordiste de Danse avec les loups. Deux Kevin, donc, qui à eux seuls ont attiré près de 10 millions de Français dans les salles de cinéma en cette année 1990. De quoi, à coup sûr, inspirer bon nombre de parents. D'autant que ce prénom marque une rupture. Il est l'un des premiers à incarner l'émancipation culturelle des classes populaires vis-à-vis de l'élite. Avant, les prénoms circulaient de haut en bas de l'échelle sociale. Le petit peuple s'appelait Charles ou Aristide, 20 ans après l'aristocratie. Une tradition qui a pris fin à partir du milieu du XXe siècle et qui nous a donc offert des flopées de Brandon, de Barbara, de Dylan, de Jennifer, de Jordan et donc de Kevin. Un prénom dont la cote s'est rapidement effondrée dans les années 2000 à mesure qu'une entreprise de délégitimation se mettait en marche. Comment pouvait-il en être autrement pour un prénom qui a eu le toupet d'enfreindre les règles du bon goût bourgeois ? S'appeler Kevin revient désormais à être considéré comme un idiot. Un Kevin ne peut pas, n'a pas le droit d'être un intellectuel, peut-on lire dans l'article. Il peut être prof de muscu, vendeur d'imprimantes ou gérant de supérettes, mais intellectuel, impossible. Cette représentation cruelle est tellement ancrée dans l'imaginaire collectif qu'en 2015, l'Observatoire des discriminations observait qu'à CV égal, un Kevin avait 10 à 30% de chances en moins de se faire embaucher par rapport à un Arthur. Alors pour se défaire de ce boulet, certains vont jusqu'à changer d'état civil. C'est le cas d'un ex-Kevin entré en contact avec Le Point et qui préfère taire son nouveau prénom tant il a dû batailler pour nettoyer Internet de sa précédente identité. Je n'ai pas subi de moquerie dans mon collège de campagne, seulement quelques-unes au lycée, mais c'est à la fac que les railleries ont fusé, raconte-t-il. Si bien qu'il a dépensé 4000 euros de frais d'avocat pour son changement d'état civil. Une procédure longue, coûteuse donc, qu'il ne regrette pas le moins du monde tant son nouveau prénom, plus classique, a changé sa vie. Il n'est d'ailleurs pas un cas isolé. Hein. Son expérience a poussé 6 Kevin à le contacter pour imiter sa démarche. Les Kevin tiennent-ils enfin leur revanche ? Un article du Point écrit par un Kevin.
Et on pensait que s'ils étaient nombreux, les Kevin, et s'ils étaient en force, normalement, ça aurait dû être plus agréable pour eux. Ouais. Ils étaient en surnombre. Incroyable cette histoire. Merci beaucoup, Julien. Julien, ça va, votre prénom ?
Ça a été le plus donné, juste avant les Kevin.
Ah oui, ah. D'accord. Mais vous n'avez pas subi de discrimination.
Et vous savez à cause de qui ?
Ah, non.
Julien Clerc.
Ah, ouais, pas mal ça, la référence.
Moi, j'aime bien.
Merci, Johan. On se retrouve dans 40 minutes pour le journal des sports. À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h et tout juste 20 minutes sur Europe 1. Soyez tous les bienvenus. Le journal permanent, Alban Le Prince.
Après 148 jours de débat, soit 10 mois d'audition, le verdict est attendu à partir de 17h. Aujourd'hui, au procès des attentats du 13 novembre, des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible ont été requises. Vers une prolongation de la ristourne de 18 centimes à la pompe prévue pour s'arrêter à la fin de l'été, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Gabriel Attal au Compte public lance un appel à l'opposition dans les Échos ce matin pour la maintenir jusqu'au 31 décembre. Et puis à Madrid, où se déroule en ce moment le sommet de l'OTAN, la Turquie a levé son veto. La Suède et la Finlande vont pouvoir intégrer l'Alliance après avoir passé un accord sur les combattants kurdes du PKK, notamment considérés par Ankara comme des terroristes.
Bon réveil avec les initiatives en France. À présent, notre coup de projecteur sur celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Antoine Père.
Bonjour, enchanté.
Vous êtes le cofondateur de Just One Card, une jeune entreprise, et vous avez inventé un tout nouveau concept, une carte de visite qui n'est pas en papier et qu'on ne donne jamais à son interlocuteur. Alors, ça paraît compliqué, dit comme ça, mais c'est en fait très simple. Expliquez-nous.
Exactement. Alors, ça paraît un petit peu paradoxal, mais en fait, avec Just One Card, nous proposons ce qu'on appelle donc des Joe Cards. Donc, ce sont des cartes de visite en bois recyclé, donc noisetier, érable ou cerisier. Et donc à l'intérieur de ces cartes se trouvent des puces NFC, c'est la même technologie qui est utilisée pour les cartes bleues sans contact notamment. Et au dos des cartes, on a aussi un QR code qui est imprimé. Et donc en passant cette carte sur le smartphone d'un utilisateur ou en scannant le QR code, cet utilisateur-là pourra accéder à tout un profil avec l'ensemble des coordonnées, notamment une photo, ses réseaux sociaux, un site web et ses coordonnées plus classiques entre guillemets comme un mail, un numéro de téléphone, etc.
Et comment est-ce que je rentre mes informations dans la puce NFC qui est elle-même dans la carte de visite ?
Alors en fait, c'est très simple. Une fois que vous commandez une Jocard sur notre site, quand vous la recevez, à la première activation, donc soit par NFC, soit par le QR code, vous aurez tout un questionnaire à remplir avec toutes les informations que vous désirez voir apparaître sur votre profil. Et donc de cette manière-là, vous pourrez choisir, par exemple, si vous préférez mettre tous vos réseaux sociaux ou seulement quelques-uns, mettre votre adresse personnelle, mettre l'adresse de votre bureau, etc.
Donc en clair, si je croise un recruteur, par exemple, dans un salon professionnel, je passe ma carte de visite sur son téléphone et là, il reçoit toutes mes informations en un éclair.
Exactement. En fait, il faut donc qu'il active la NFC sur son téléphone. Donc la NFC, c'est une technologie qui est présente sur aujourd'hui 95% des smartphones en vente sur le marché. Sinon, il peut flasher le QR code si jamais il n'a pas la NFC sur son téléphone. Et il ouvrira un URL et il a tout un profil donc avec votre photo, tout votre contact et puis vos réseaux sociaux, etc. Et il y a un petit bouton avec écrit « Ajouter le contact » dessus qui lui permettra d'enregistrer toutes vos coordonnées dans son téléphone en seulement 2 clics.
Alors c'est plutôt écologique hein, parce qu'il n'y a plus besoin de faire imprimer des centaines de cartes papier qui pour la plupart ne servent à rien. Et puis c'est pratique puisqu'on peut mettre à jour en permanence ces informations stockées sur la carte.
Quelques statistiques indiquent que 80% des cartes de visite sont jetées dans les 2 semaines à venir. Et donc nous, quand on a pensé ce concept, on voulait vraiment avoir une carte évolutive qui peut suivre tous les changements de carrière d'une personne. Et donc en fait, comment ça marche ? Une fois que vous avez rentré vos informations, elles sont à tout moment modifiables puisque nous sommes actuellement en train de développer une web application qui permettra en fait de rechanger à chaque fois ces informations. Donc par exemple, si vous changez d'entreprise, de numéro de téléphone, de mail, peu importe, ce sera complètement évolutif au niveau de la carte et modifiable à distance. Donc vous n'avez rien à faire sur votre carte physique.
Est-ce que les informations qui sont stockées sur la carte sont scriptées ? Parce qu'elles peuvent être sensibles. En tout cas, on n'a pas forcément envie que tout le monde puisse y avoir accès.
Donc nous utilisons une base de données qui est hébergée par Google, donc qui est sécurisée par toute la technologie Google. Et toutes les données sont cryptées de façon à ce que personne ne puisse accéder à votre carte de visite et à vos informations personnelles si vous n'avez pas décidé de lui avoir donné votre carte ou le lien qui mène vers votre carte de visite.
Comment vous est venue cette idée ?
Alors cette idée, en fait, elle nous est venue parce que nous, donc on a cofondé cette entreprise à 3 étudiants de Mines-Nancy, donc une école d'ingénieurs. Et en fait, on est rentré à un moment dans nos études où on a commencé à avoir besoin d'être efficace avec des recruteurs, notamment pour pouvoir transmettre nos coordonnées. Et on a remarqué qu'il n'y avait pas finalement de solution idéale, puisque les cartes papier, comme on l'évoquait juste avant, c'est un objet qui se perd, qui se déchire, qui n'est pas tout le temps à jour ou qui peut être jeté très très facilement. Et cette problématique, elle s'est révélée aussi quand on a une de nos amies qui est en études de cinéma, qui a eu besoin en fait de donner sa carte pour pouvoir avoir accès à des tournages, pour pouvoir être proche des studios de production. Et on a dès lors, avec un petit peu notre curiosité d'ingénieur, regardé ce qui se faisait en termes de carte de visite connectée, et on a découvert cette technologie-là, NFC, qui était du coup très très efficace pour ce type d'application. Et donc, en creusant, on a finalement développé notre produit pas à pas au fur et à mesure des prototypes. Et on en est arrivé donc à la Jocard que nous commercialisons aujourd'hui.
Oui, depuis quelques semaines seulement. Combien coûte l'une de vos cartes ?
Alors, nos cartes, on les vend donc 25€ hors taxe, donc 30€ TTC pour les particuliers. On ajoute un petit frais de personnalisation, donc pour ajouter un logo sur la carte, on vend en plus 5€ hors taxe. Donc globalement, pour un particulier, ça coûtera environ 36€ pour se munir d'une carte parfaitement fonctionnelle et livrée gratuitement.
Et qu'on peut théoriquement conserver à vie. Merci beaucoup Antoine Père de nous avoir présenté votre carte de visite unique et connectée. Ça s'appelle Just One Card. On vous souhaite beaucoup de succès.
Et bien, merci beaucoup. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Passez une bonne journée.
Europe 1. Europe Matin. Blin Roche et Julien Pierce.
Bonjour à tous, bon réveil, nous sommes le mercredi 29 juin. Dans un instant, le journal de 5h30 avec Christophe Lamor, où l'on ira notamment dans les Pyrénées-Orientales, où un important incendie s'est déclaré, près de 1000 hectares ravagés, a priori désormais sous contrôle. Et puis on va se pencher ensuite sur les Hard Seltzer, Omblin, ces nouvelles boissons alcoolisées dans le collimateur de l'UFC Que Choisir et Addiction France.
Des eaux pétillantes avec le goût de l'alcool, souvent camouflé par les sucres et les arômes, qui séduisent beaucoup les jeunes et le marketing. marketing intensif de ces boissons hard seltzer sur les réseaux sociaux a tendance à nous faire oublier qu'il y a autant d'alcool dans cette soi-disant eau pétillante que dans une bière. Nous serons dans un quart d'heure avec Franck Lecal, le responsable du pôle Loi et Vin à Addiction France.
Et puis coup d'œil ensuite sur les sorties du jour au ciné.
Avec la nouvelle comédie de Jérôme Commander, ça s'appelle Irréductible. Et puis Luc Besson ressort des cartons, Arthur et les Minimoys. Mais attention, cet Arthur-là est interdit au moins de 12 ans. Laurie Cholleva nous rejoindra sur Europe 1 à 5h50.
Mais avant, c'est Anissa Dadi pour la météo. Et Anissa nous annonce que c'est un peu l'été aujourd'hui, non? À part quelques nuages par-ci, par-là.
Oui, on a un très très beau soleil sur l'ensemble du pays, mais il y a des nuages qui traînent. Alors d'abord, on a des nuages sur l'ouest du pays, sur toute la Bretagne, sur le Cotentin, les Pays de la Loire, jusqu'au sud de la Vendée, le nord de la Gironde. Là, c'est couvert avec des petites averses. Et puis, on a des nuages en face, entre l'Alsace et les Alpes. C'est la fin de la perturbation d'hier qui a apporté pas mal d'orages dans ce secteur. Elle est en train de s'évacuer vers l'est et donc on pourrait avoir 2-3 petites gouttes ce matin, rien de méchant. Cet après-midi, les nuages vont s'enfoncer et devenir de plus en plus nombreux entre les Hauts-de-France et la Gironde. Ça descend même jusque sur le Pays Basque en passant par les Landes. On aura des orages, de nouveaux orages qui éclatent ce soir et cette nuit sur les Pyrénées. Ça reste légèrement nuageux sur l'est et entre ces deux zones, c'est du grand et très beau soleil. Les températures ce matin, on a 9 degrés à Montluçon, 12 à Bordeaux, 13 à Lille, 15 à Paris et 20 à Marseille déjà ce matin. Et cet après-midi, 17 à 34 degrés. Du simple au double. 17 pour Brest, 34 à Nîmes et 27 pour Paris.
C'est noté, merci beaucoup. Anissa Dadi, à tout à l'heure. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce mercredi, une femme au perchoir de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet succède à Richard Ferrand. Première séance marquée par une première polémique. Le discours du député Rassemblement national José González qui a provoqué la colère de la gauche, on l'entendra. Le sommet de l'OTAN à Madrid, la Turquie lève son veto à l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Sérieux revers pour Moscou. Et puis dans ce journal, le procès des attentats du 13 novembre. Verdict attendu dans l'après-midi. Épilogue d'un long marathon judiciaire, près de 10 mois d'audience.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a ceux qui s'apprêtent à partir en vacances et ceux qui ont fait leur rentrée. Les députés se sont retrouvés pour la première fois en séance plénière hier à l'Assemblée. On peut parler de première à tout point de vue. D'abord avec l'élection d'une femme à la présidence. Yaël Braun-Pivet, élue de la majorité, succède à Richard Ferrand au perchoir. Ensuite, avec la polémique déclenchée dès l'ouverture de la session parlementaire par le doyen du Palais Bourbon. Dans son discours, le député Rassemblement National, José González, évoque ses souvenirs de pieds noirs, une référence à l'Algérie française qui a fait bondir la NUPES. Reportage Victor Chabert.
Oui, après les salutations d'usage, le doyen RN José González, 79 ans, se livre au perchoir à une confidence sur sa vie qui fait bondir les rangs de la majorité de la NUPES. Il a une pensée pour ses amis tombés en Algérie française.
J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas.
Interrogé à la sortie de l'hémicycle sur ce passage de son discours, José González persiste et signe.
Des crimes en Algérie, non, l'armée française, je ne pense pas. Alors peut-être maintenant il faudra revoir l'histoire, mais je ne pense pas. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OS a commis des crimes, je ne sais même pas ce que c'était l'OS, ou presque pas.
Et la gauche saute sur l'occasion. Pour Sandrine Rousseau, députée écologiste, les masques tombent.
La dédiabolisation du RN a pris fin dès la première séance.
Autre polémique qui émaille l'après-midi quand l'insoumis Louis Boyard, l'un des benjamins de l'hémicycle chargé d'être secrétaire de séance, refuse de serrer la main de député RN lorsqu'il monte au perchoir voter. Entre le Rassemblement National et la NUPES, il n'a pas fallu une seule journée pour que les relations se tendent à l'extrême.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1 à l'Assemblée qui va poursuivre ses travaux avec l'élection à la présidence des principales instances, la plus prestigieuse, celle des finances, est prévue demain. Deux candidats en lice, Éric Coquerel pour la NUPES et Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National.
Et pendant ce temps, Elisabeth Borne, la Première Ministre, poursuit ses consultations pour tenter de dégager la route de son gouvernement.
Elle recevra tour à tour les chefs de file à l'Assemblée des groupes communistes, de la France Insoumise et du Rassemblement National. Marine Le Pen prête à des compromis. Une opposition de principe serait stupide et contre-productive, elle le dit ce matin dans les colonnes du Figaro. Figaro.
Le sommet de l'OTAN à Madrid, la Suède et la Finlande ont fait un pas décisif vers leur adhésion.
Adhésion bloquée jusqu'à présent par le veto de la Turquie. Ankara vient de le lever contre la promesse d'une coopération suédoise dans la lutte contre le PKK, organisation kurde accusée de terrorisme par le régime turc. La Suède et la Finlande, pays pacifistes par tradition, vont donc rejoindre l'Alliance Atlantique. Une satisfaction pour la députée finlandaise Elina Valtonen.
Je suis très heureuse que nous ayons réussi à trouver un accord en seulement quelques semaines. Et je ne parle pas du tout que pour moi. Un sondage est sorti il y a quelques jours. Il disait que 79% des Finlandais voulaient que notre pays rejoigne l'OTAN et avaient hâte. Donc c'est vraiment la grande majorité. On est très très content de rejoindre la famille de l'OTAN, de l'Occident. Si on a de la chance, on pourra peut-être commencer les négociations avec l'OTAN dès cette semaine, lors du sommet à Madrid, puisque tout le monde sera là-bas. Et même si ce n'est pas cette semaine, peu importe, on se réjouit quand même de ce grand pas en avant.
Elina Valtonen, députée finlandaise, avec Zoé Palier. La guerre en Ukraine au cœur de cette deuxième journée du sommet de l'OTAN. Le président ukrainien Zelensky interviendra à deux reprises par visioconférence. Moscou, de son côté, exclut toute interruption de son offensive sur le terrain. Seule une capitulation ukrainienne permettra un arrêt immédiat des hostilités, indique le porte-parole du Kremlin.
Aux États-Unis, un témoignage explosif dans l'enquête sur l'attaque du Capitole met Donald Trump en très grande difficulté.
Je suis le putain de président, amenez-moi au Capitole. Un président ne devrait pas dire ça. Ce sont pourtant les mots de Donald Trump au chef de la police qui voulait l'empêcher de prendre la limousine présidentielle pour rejoindre ses partisans le jour de l'assaut sur le Congrès. Révélation d'une ex-collaboratrice de la Maison-Blanche devant la commission d'enquête parlementaire.
On revient en France à 5h35 sur Europe 1 en direction les Pyrénées-Orientales où les pompiers luttent toujours contre un incendie qui a déjà ravagé près de 1000 hectares dans le sud du département.
Le feu s'est déclenché vers midi entre Opoul-Périllos et Sals-le-Château. Il a entraîné l'évacuation de 300 personnes mais ne menace plus les habitations. 600 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir selon la préfecture. 200 pompiers sont toujours mobilisés sur place. Un acte probablement criminel selon le maire de l'une des communes touchées. Même si aucune victime n'est à déplorer, Mathieu Limongi.
Oui, sur les nombreuses vidéos amateurs publiées sur les réseaux sociaux, une épaisse fumée noire sur des dizaines de kilomètres et un ciel totalement rougi par les flammes. À Sals-le-Château, des centaines de personnes ont dû être évacuées. L'incendie, lui, a nécessité l'intervention de plus de 400 pompiers et de 8 avions bombardiers d'eau. Au même moment, un autre incendie d'une moindre ampleur a également touché les communes de Saint-Féliu-d'Aval et de Rivesaltes, plus au sud du département. Des flammes moins importantes, mais qui ont tout de même mobilisé 90 pompiers. Une centaine de personnes a également été évacuée. Aucune victime n'est à déplorer selon les pompiers sur place. Les incendies, eux, ont finalement été maîtrisés aux alentours de 23h.
Mathieu Limongi.
L'épidémie de Covid continue sa progression, mais le gouvernement écarte le retour des restrictions.
Près de 150 000 nouvelles contaminations hier, hausse de 54% en une semaine. Si les admissions sont en augmentation à l'hôpital, elles ne mettent pas les services de soins critiques sous tension. Elisabeth Borne exclut pour l'instant de donner un tour de vis. Matignon en reste au stade des recommandations. La question est de savoir si ce sera suffisant.
À la fin du procès des attentats du 13 novembre 2015, on attend le verdict cet après-midi de la Cour d'assises spéciale de Paris.
Les 9 juges se sont retirés hier pour délibérer. Verdict attendu entre 17h et 20h. Un procès historique par sa longueur, 10 mois d'audience. Lourd et difficile à supporter pour les 2400 parties civiles. Une page va se tourner pour les rescapés, les proches, les avocats et les familles des accusés. Une micro-société avait même fini par émerger dans la salle d'audience. Des amitiés étonnantes se sont même nouées au CNTR.
Dès le premier jour du procès, début septembre, il y a eu la pudeur, les visages crispés. Et puis au fil des heures passées ensemble sur les bancs de la salle d'audience, il y a l'amitié entre parties civiles qui se tisse, raconte David, ex-otage du Bataclan.
J'ai Aurélie, Arthur, Gwendal, Bruno. Là, j'en ai plein, je peux continuer comme ça. Et en fait, cette complicité amicale, elle est inattendue dans un endroit aussi sérieux, aussi protocolaire, aussi important. Mais ça a été vraiment nécessaire à des moments où on ne s'y attendait pas, quoi. Et c'est ça, en fait, qui a vraiment été constitutif de beaucoup, beaucoup de parties civiles à l'audience. Et voilà.
D'autres liens plus inattendus se sont aussi noués avec les trois accusés qui comparaissaient libres. Certaines victimes se sont même rendues au Bataclan avec eux, symboliquement. Car au-delà du procès, du marbre froid, du palais de justice, il y a des discussions, des verres partagés au café d'en face, se souvient Maître Maugendre, un des avocats des parties civiles.
Il y a une table
avec des victimes et puis une table avec des avocats qui soient d'un côté ou de l'autre, bah, ça fait des relations qui petit à petit se nouent un peu plus qu'une simple discussion de bistrot. Et compte tenu du drame qui a été vécu par ces gens-là, c'est nécessaire. C'est nécessaire qu'il y ait de l'humanité.
Des amitiés qui resteront, prédit l'avocat. Certains ont même prévu de se revoir dès cet été, d'autres à la rentrée.
Océane Terre, un mot de tennis. 6 Français passent le premier tour à Wimbledon. L'exploit du jour est signé Harmonita. La jeune Française a battu Serena Williams.
Et ce n'est pas rien. Merci beaucoup Christophe Lamarre pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet. Thierry Léger, bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction les bords de l'Allier, l'hippodrome de Vichy pour ce Quintet. Une course aux trois attelés qui réunira 14 chevaux âgés de 7, 8 et 9 ans, répartis sur deux poteaux différents de départ, 2950 et 2975 mètres. Doué mais insaisissable, Fabulous Dream, le numéro 4, sera néanmoins mon favori. Avec lui, ce sera une nouvelle fois une question de sagesse et de bon vouloir, mais je crois savoir qu'il est actuellement particulièrement coopératif le matin à l'entraînement, un comportement annonciateur dès cet après-midi d'une très grande performance. On lui opposera Philae de Soyora, le numéro 6, et Futur du Chêne, le numéro 9, qui possèdent tous les deux des références solides sur cette piste et plus particulièrement sur ce tracé nécessitant de la tenue, avec Espoir du Drop, le numéro 7, bien engagé au premier poteau et pour lequel son propriétaire entraîneur-driver Christophe Fate ne m'a pas caché sa confiance. Enfin les numéros 4, Eddie Josselin, 5, Eden de Lamoire, 10, Elandon Pierre et 13, Elixir du Rabutin compléteront ma sélection. Mon pronostic, 14, 6, 9, 7, 4, 5, 10 et 13.
Des pronostics que vous retrouvez sur Europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Place au jour où les grands faits historiques racontent à travers les archives d'Europe 1.
Il y a 25 ans, a eu lieu au Parc des Princes à Paris un événement, un grand concert de Michael Jackson. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
La star américaine est à Paris en juin 97 pour sa tournée baptisée History. Tournée qui réunira au total 4 millions de personnes à travers 80 concerts.
Oui, et c'est la première tournée de Michael Jackson qui ne passe pas par son pays, les États-Unis, mais uniquement par l'Europe. Il apparaît sur scène déguisé en robot, caché dans une fusée, décor monstrueux, écran immense, pour 3 heures de spectacle. Ce soir-là, il danse avec une fan qui parvient à monter sur scène et fait se pâmer toutes les autres.
Super! Formidable, c'était super.
C'est dommage, il n'était pas à côté de nous. J'aurais bien voulu le serrer fort. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois.
Là maintenant, apparemment, il y a des gens qui ne veulent plus partir, ils restent, ils appellent. Mais bon, c'est terminé là, hein. On s'en va. Et puis peut-être dans 4 ans maintenant.
La tournée History, c'est son histoire, l'histoire du roi de la pop. Michael Jackson sort d'une valise les vieux costumes de Billie Jean ou de Thriller, deux de ses grands tubes des années 80.
Michael Jackson, superstar, mais qui est aussi souvent qualifié de mégalomane, et ce soir-là, encore une fois.
Et oui, en particulier pour ses mises en scène parfois surprenantes. Il y a ce moment dans le spectacle où des images de la guerre du Golfe sont projetées. Un char débarque sur scène et Michael Jackson convainc un militaire de baisser son arme.
Il est sûrement mégalomane, mais il faut l'être pour faire des spectacles comme ça, je pense. C'est une scène extraordinaire, c'est des couleurs, c'est des images, c'est des séquences, c'est des mouvements. Et c'est surtout la façon de danser et de faire le spectacle de Michael Jackson, c'est vraiment exceptionnel.
Quelques semaines plus tôt, au mois de mai 97, l'idole Michael Jackson fait encore sensation au Festival de Cannes sur la Croisette.
J'aurais jamais pensé que j'aurais pu approcher de si près, quoi.
Michael Jackson, dès qu'il passe, il y a tout le monde qui devient fou, quoi.
Je pense que même ceux qui n'aiment pas Michael Jackson ont découvert la bonne facette de Michael Jackson, c'est-à-dire pas la facette des faux scandales, des tabloïds, vraiment la facette positive, vraiment géniale, excellente.
2h du matin, ce soir-là, le concert sur la Croisette est terminé. Tout le monde pensait voir Michael Jackson faire la fête. Eh bien, pas du tout. Il est sagement rentré se coucher.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Et à demain pour un nouveau jour où sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. Les boissons Hard Seltzer sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h44 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Depuis 2 ans, elle s'invite à la terrasse des bars et des cafés en France. Des boissons pétillantes, aromatisées et qui surtout essayent de faire oublier qu'elles contiennent de l'alcool, environ 5% généralement. La stratégie marketing de ces boissons dites hard seltzer est un nouvel enjeu de santé publique et on en parle, Ombline, avec votre invité, le responsable du pôle loi et vin à Addiction France.
Bonjour Franck Lecas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, avec l'association de défense des consommateurs, l'UFC Que Choisir. Addiction France vient de déposer 2 plaintes devant le tribunal judiciaire de Paris pour violation de la loi Evin et pratiques commerciales trompeuses contre Snowmelt, une marque de hard seltzer. Franck Lecas, d'abord, vous pouvez nous rappeler ce qu'est une boisson hard seltzer?
Un hard seltzer, c'est de l'eau en fait pétillante dans laquelle on a de l'alcool et plus ou moins d'arômes en fonction du producteur qui émet cette boisson.
Hard pour alcooliser, donc, c'est bien clair, par opposition au soft comme les sodas. C'est ce que ça veut dire.
Tout à fait. Sauf que dans le marketing qui est fait par ces marques, et c'est vrai que c'est un peu le point commun de toutes ces marques, et en particulier celle pour laquelle on dépose plainte, c'est que on communique surtout sur le fait que c'est de l'eau, en fait, et puis aussi sur le fait que ça semblerait écologique, presque bon pour la santé, peu calorique, à consommer en toutes circonstances, si bien même que des fois, en l'occurrence sur la communication qui est faite sur les réseaux sociaux, c'est des sportifs, ou dans le cadre d'une randonnée, que les gens consomment cette boisson, et c'est vrai que ça donne un message qui est illégal par rapport à la loi Evin, qui régit la publicité alcool, qui pose un cadre, et on ne peut pas tout dire quand on fait de la publicité pour l'alcool, mais en plus, ça donnerait une image assez positive et assez finalement trompeuse par rapport au produit, qui n'est pas meilleur pour la santé qu'un autre alcool finalement.
Alors rappelons que ces boissons hard seltzer, elles viennent à l'origine d'Amérique du Nord, et vous dites que cette boisson alcoolisée, que ce soit bien clair, autant que la bière, finalement, 5%, avance masquée.
C'est ça.
C'est pas précis, c'est pas clair.
Il y a une ambiguïté sur le slogan de Snowmelt, c'est « not just water ». Il y a une ambiguïté sur le mot, effectivement. Ils le masquent pas, ils le disent sans le dire. Voilà, il y a tout cet environnement naturel, la montagne, l'eau des montagnes. Vraiment, on a l'impression que c'est quelque chose qui… Enfin, en tout cas, ils veulent donner l'impression que c'est quelque chose qui est meilleur pour la santé qu'un alcool traditionnel, voire même bon pour la santé.
Les marques de hard seltzer utilisent donc l'image des influenceurs, la diffusion virale de leurs posts sur les réseaux sociaux. Est-ce une manière, selon vous, d'essayer de contourner la loi Evin qui réglemente très strictement la publicité des produits alcoolisés?
C'est ça. En fait, dans la loi Evin, on essaie de limiter la visibilité des publicités alcool, d'une part, en limitant les supports. Bon, là, en l'occurrence, Internet est autorisé comme étant un support autorisé, mais pour autant, on ne peut pas dire n'importe quoi quand on fait de la publicité pour l'alcool, et surtout pas non plus avoir recours à des personnalités, des personnes, des gens qui ont une influence et qui inciteraient à consommer. Ça, ce n'est pas possible, et en l'occurrence, c'est vraiment ce qu'a fait là dans la marque qu'on attaque, notamment sur le réseau social Instagram, et effectivement, cette communication… Elle est contraire à ce que pose comme interdit la loi Evin.
Dès le départ, Franck Lecas, les hard seltzer entendent séduire les jeunes consommateurs. Hein, on le comprend bien, en tout cas par leur façon de communiquer. Des boissons qui se veulent dans l'air du temps, naturelles, bio, on l'a dit, avec moins de sucre. Mais tout ce qui fait référence à l'alcool est absent ou quasi indiscernable. Pourquoi ne pas dire simplement que c'est de l'alcool? Parce que ça ferait une mauvaise publicité au produit.
Effectivement, c'est ce qu'on devrait faire en premier lieu. En tout cas, quand une marque de bière communique sur la bière, elle dit que c'est de la bière. Effectivement, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que ça soit alcoolisé. Et là, effectivement, avec ce nouveau nom, ce nouveau produit qui arrive sur un nouveau marché, il y a peut-être cette ambition de faire oublier le côté alcoolisé en faisant passer le produit pour un produit sain. Et peut-être séduire une nouvelle clientèle, peut-être les jeunes en particulier, peut-être aussi un public qui se soucie de sa santé davantage qu'une autre partie de la population. Et c'est effectivement, c'est ça qui pose problème. C'est de l'alcool, ça reste de l'alcool. Et ça devrait être le sujet principal, quoi. En fin de compte, il y a 5 degrés et c'est tout.
Oui, alors je vais faire du coup un petit parallèle. Ce problème de ne pas dire ce que c'est ou de vouloir toucher une population plus jeune, vous le rencontrez également avec la fameuse cigarette électronique jetable, la puff, qui est aromatisée, qui est aussi appréciée des adolescents. Addiction France aussi s'intéresse à cet enjeu de santé publique.
Alors effectivement, il y a un parallèle et nos professionnels de la prévention nous alertent régulièrement en disant qu'il y a un vrai sujet là-dessus. en particulier, semble-t-il, pour l'association de ces deux produits, des produits qui séduisent par le marketing une clientèle jeune, hein, en l'occurrence, et qui sembleraient être incitatives, peut-être avoir un impact sur les jeunes et l'initiation à la consommation. Et c'est ça qui est un peu problématique, évidemment, surtout quand on est sur les jeunes, voire les très jeunes.
Et le risque de ce type de boisson hard seltzer, ou c'est même ces cigarettes électroniques jetables, ces puffs, c'est qu'on va banaliser la consommation de boissons alcoolisées, la consommation de nicotine.
Ça, effectivement, c'est un peu la crainte de notre association. On le constate pour tout le marketing, en fait, ça, c'est pas forcément propre aux hard seltzer, mais tout le marketing qui a lieu sur les réseaux sociaux, au travers des influenceurs, qui, contre quelques billets, promeuvent une boisson qui n'est vraiment pas anodine, qui provoque, vous savez, hein, comme tout le monde le sait, des graves problèmes sociétaux pour la santé et pour l'ordre public par ailleurs, mais pour la santé en particulier, à court et à moyen terme, et à long terme aussi. Et donc, du coup, banaliser au travers du recours à des personnalités, des gens qui incitent finalement au travers de leur image, qui influencent, auxquels on s'identifie, c'est vraiment ça le sujet aujourd'hui de notre association, l'objet de cette plainte aussi. Et on espère bien que les parquets vont s'en saisir et donner une suite à notre plainte et faire une enquête finalement pour aller chercher toutes ces personnes qui contribuent à banaliser l'alcool tel qu'ils le font.
Merci beaucoup Franck Leca d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le responsable du pôle Loi et Vin à Addiction France. Bonne journée.
Bonne journée à vous, merci.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h10 sur Europe 1, très bon café à tous. Le journal permanent, Alban Le Prince.
Et la Turquie ouvre finalement la porte de l'OTAN à la Suède et à la Finlande. Ankara a levé son veto hier au sommet de l'Alliance qui se déroule à Madrid après avoir trouvé un accord notamment sur les Kurdes du PKK considérés par la Turquie comme des terroristes. Les 27 viennent quant à eux d'approuver cette nuit à Luxembourg le projet de la Commission européenne visant à en finir avec les voitures thermiques en 2035. Et puis retour en France. Après 148 jours d'audience, lors du verdict au procès des attentats du 13 novembre, la Cour doit rendre à partir de 17h aujourd'hui sa décision. Des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible ont été requises.
Allez, à 5h51, on se penche sur les sorties ciné.
Bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Amblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Laurie. Alors cette semaine, c'est l'excellent Jérôme Commandeur qu'on retrouve en fonctionnaire passionné.
Exactement, dans Irréductible, son nouveau film en tant que réalisateur, remake d'une comédie italienne dans laquelle Jérôme Commandeur joue Vincent Pelletier, un fonctionnaire qui, suite à des mesures gouvernementales, va être encouragé au départ. C'est comme ça qu'on dit. Mais Vincent est un irréductible et il va tout faire pour ne pas démissionner, quitte à accepter les affectations les plus improbables et surtout les plus lointaines.
Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout.
Je vais prendre une map monde, je vais la faire tourner. Et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt.
Tiens bon, Vincent, tiens bon.
On voit où cette fois-ci ?
Il fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont égoïstes, impolis et arrogants.
C'est pas faux, mais c'est une toute petite partie des Blancs qu'on appelle les Parisiens.
C'est un film plein d'humour, plein de générosité aussi, plein d'amour, plein d'aventures. Ça parle de la fonction publique, mais aussi du climat, des problématiques environnementales ou encore du déclassement. Et puis finalement, celui qui en parle le mieux, c'est Jérôme Commandeur. Écoutez-le.
J'ai trouvé que la trajectoire du héros était très belle parce qu'en fait, d'abord, elle est belle et puis elle résonne avec aujourd'hui parce que c'est une histoire de désobéissance. En fait, c'est en disant non qu'il va s'ouvrir, rencontrer des peuples, des usages, une nouvelle femme, des nouveaux beaux enfants, un nouveau job. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une philosophie extrêmement jolie et originale. Après, il a fallu le franciser et j'ai à peu près créé un tiers du film.
Et alors, il faut souligner la présence de rôles secondaires hilarants comme Christian Clavier qui joue un syndicaliste de gauche, Gérard Depardieu qui annonce son retour en France ou encore Valérie Lemercier. Un film gentiment déjanté, un film moqueur mais surtout très bienveillant qui avait reçu le grand prix au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Bref, on en redemande.
Et puis Laurie, vous avez choisi également aujourd'hui un film d'horreur qui nous ramène en enfance.
Oui, et c'était un pari osé. Si je vous dis que le film nous replonge dans l'univers fantastique, peuplé de très petits personnages dont le héros principal se nomme Arthur, Vous me dites évidemment Arthur et les Minimoys. 16 ans après le premier volet réalisé par Luc Besson, l'histoire continue de vivre avec Arthur, la malédiction de Barthélémy Grossman. Alors l'histoire est un peu différente, c'est une bande d'ados, d'amis, fans du film depuis toujours qui se retrouvent dans la célèbre maison d'Arthur. Évidemment, dès leur arrivée, un habitant du coin les met en garde, mais ils partent quand même à l'aventure. Et même si la maison n'est plus ce qu'elle était, ils retrouvent les décors qui ont marqué leur enfance. Mais très vite, la petite bande va faire face à des événements étrange, ils ne sont pas seuls ici.
Je sais ce que je voudrais faire quand je serai plus grand.
Qu'est-ce que tu veux faire ?
Je veux être un Minimoy.
On a retrouvé la maison d'Arthur.
C'est quoi ça ?
Le gardien, il a dit que c'était dangereux.
Toutes les minutes, tu klaxonnes trois fois.
Il y a un souci ! On reste pas là !
De rejoindre le monde des Minimoys, c'est le moment. Ah ! La lune est pleine.
Bon, en gros, c'est Arthur et les Minimoys qui auraient croisé Chucky. Je préfère vous prévenir, vous l'aurez compris, on est loin de l'univers merveilleux d'Arthur et les Minimoys. Le film est interdit au moins de 12 ans et c'est mérité puisque c'est assez sanglant, angoissant, violent. Et si Luc Besson ne réalise pas, il a quand même produit et coécrit le film et sa fille joue dedans et elle est excellente.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, dans un instant la météo, le journal et un verdict.
Oui, le verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015, il est attendu ce soir, après 10 mois de longs débats devant la cour d'assises spéciale de Paris, épilogue de l'audience criminelle la plus longue de l'histoire judiciaire française d'après-guerre.
Et à cette occasion, Gladys Laffitte, notre journaliste qui couvre ce procès depuis septembre, a rencontré le père de l'une des 130 victimes assassinées le soir du 13 novembre.
Un témoignage très digne, poignant et précieux, vous l'entendrez, qu'on va écouter dans une dizaine de minutes. On poursuivra ensuite Omblin avec votre partition.
Un tandem éternel et une collaboration artistique culte.
Les deux sous chic, c'est une chandelle qui claque dans la tête comme une paire de claques.
Après s'être quitté, Serge Gainsbourg écrit pour Jane Birkin l'album prodigieux Baby Alone in Babylon. Rendez-vous dans 20 minutes.
Anissa Haddadi pour la météo, retour au calme à l'est.
Oui, hier on a eu une journée particulièrement agitée entre l'Alsace et la Côte d'Azur. Et hier après-midi, je vous avais prévenu, un début d'après-midi qui risque d'être violent dans le sud-est. Et bien ça l'a été, puisqu'on a eu quand même des cumuls d'eau très importants avec des orages qui se sont bien fait entendre dans le sud de la France, avec de belles inondations par exemple du côté de Bormes-les-Mimosas dans le Var. Alors aujourd'hui, c'est un retour au calme. On n'a pas du plein soleil hein, sur l'est de la France. Entre l'Alsace et les Alpes du Nord, on a quand même encore quelques passages nuageux aujourd'hui. Mais c'est à l'ouest que les nuages font leur grand retour. Ils arrivent par l'Atlantique. Donc entre la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Gironde, c'est très gris ce matin avec des petites averses. Dans l'après-midi, les averses vont gagner du terrain et arriver jusqu'au centre Val de Loire. Partout ailleurs, c'est du grand soleil avec 17 à 34 degrés cet après-midi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. Il est bientôt 6h. Soyez tous les bienvenus. Et je suis heureux d'annoncer que nous avons maintenant un accord qui ouvre la voie à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. L'Alliance Atlantique s'agrandit face à la menace russe. Le secrétaire général de l'OTAN a salué la décision de la Turquie. Hier, Ankara a levé son veto, opposé jusqu'à présent à l'entrée de la Suède et de la Finlande. Lors du verdict au procès du 13 novembre, les juges annonceront ce soir les peines retenues contre les 14 accusés présents. La fin de 2 jours de délibération et de 10 mois d'audience. Et puis vous connaissiez Enrico. Voici désormais le petit-fils, Simon Macias. Le jeune homme sort son premier album et rêve d'un duo avec son grand-père.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal, c'est avec Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Jamais deux pays ne seront entrés aussi rapidement dans l'OTAN. La Suède et la Finlande débutent aujourd'hui leur processus d'adhésion à l'Alliance Atlantique. Un mois et demi à peine après le dépôt de leur dossier. Deux candidatures finalement validées par la Turquie hier soir. Ankara avait jusqu'à présent posé son veto à cet élargissement, accusant des liens entre ces pays scandinaves et l'organisation kurde du PKK.
Une avancée essentielle, saluée par le secrétaire général de l'OTAN. Le sommet se poursuit aujourd'hui à Madrid et au centre de la table, la guerre en Ukraine.
Et cette menace russe qui pèse aussi sur les pays baltes, Lituanie en tête. Le pays veut d'ailleurs s'affranchir de son voisin encombrant. Plus d'importation de gaz ni transfert de marchandises venues de Moscou. Les passagers russes, eux, restent autorisés grâce notamment à un train qui s'arrête chaque jour dans la capitale lituanienne. Sur le quai de la gare de Vilnius, notre envoyée spéciale, Caroline Baudry.
9h23, comme chaque jour, les wagons du train gris et rouge entrent en gare. Une annonce en langue russe résonne dans les haut-parleurs du quai numéro 12.
Aux passagers du train 29 Moscou-Kaliningrad. Nous avons préparé pour vous une galerie de photos prises en Ukraine. Vous pouvez les voir par les fenêtres de votre wagon. Aujourd'hui, Poutine tue les civils innocents d'Ukraine. Acceptez-vous cela ?
De rares visages apparaissent derrière les vitres teintées. 24 photos sont fixées sur les grillages qui bordent le train. Des bouches découpées, des bâtiments éventrés pour les sortir de la propagande russe. Sur le quai d'en face, Lilia, 51 ans, réfugiée de Kiev, agite un drapeau ukrainien et brandit cette pancarte vers les voyageurs.
Les Russes, partez de mon Ukraine. C'est la seule chose que je veux leur dire. Les gens qui voyagent dans ce train, certains partent en vacances. D'autres reviennent de la mer. Là, ce sont les vraies images de ce que leurs fils sont en train de faire. J'aimerais vraiment qu'ils réfléchissent. Comment regarderont-ils leurs enfants dans les yeux s'ils ont choisi une personne pareille et la laissent agir comme ça? Alors ils ont une part de responsabilité.
Un vieil homme à la fenêtre se tient les mains en signe de solidarité. 10 minutes plus tard, le train repart. Le maintien de sa circulation est le gage d'une paix aujourd'hui fragilisée. Vilnius, Caroline Baudry, Europe 1.
Je suis un putain de président, amenez-moi au Capitole. Phrase tout simplement ahurissante prononcée par Donald Trump. C'est en tout cas ce qu'affirme une ancienne collaboratrice de la Maison Blanche.
Elle était auditionnée hier par le Congrès américain dans le cadre des émeutes de janvier 2021 au Capitole.
Et elle raconte une scène hallucinante. Le président des États-Unis aurait essayé de prendre le volant d'une limousine pour rejoindre les manifestants, armés pour certains. Donald Trump prêt à en venir aux mains avec son chauffeur d'après le témoignage de la jeune femme. 6h03, 10 mois d'audience, 148 jours de débat. Et enfin, le verdict attendu ce soir au procès du 13 novembre. Les juges vont prononcer les peines retenues contre les 14 accusés présents. Le parquet antiterroriste a requis notamment la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. Une condamnation rare qui rendrait quasiment impossible la possibilité d'une libération. Le procès des attentats du 13 novembre qui a d'ailleurs pris du retard, un mois de retard même à cause du Covid. La moitié du box des accusés a été contaminée par le virus cet hiver.
Et rebelote à la veille de l'été, les contaminations marquent à nouveau une très nette hausse.
Oui, au point de parler de 7e vague, près de 150 000 nouveaux cas en 24 heures, plus 50% par rapport à la semaine dernière, lié en partie à un effet de rattrapage à cause du week-end. Il n'empêche, le gouvernement recommande à présent le port du masque dans les lieux clos, à commencer par les transports en commun.
Le Covid qui s'ajoute donc à la pile de dossiers sur le bureau d'Elisabeth Borne.
Oui, et le premier d'entre eux, ça reste le remaniement attendu début juillet. La première ministre poursuit d'ailleurs les consultations avec l'opposition aujourd'hui. Hier, Julien Bayou était reçu à Matignon. Un échange avec le secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts qui n'a pas vraiment démêlé le nœud parlementaire.
En fait, en vrai, le gouvernement tergiverse. Le gouvernement, l'exécutif, découvre que finalement, les Françaises et les Français ont quelque part imposé une proportionnelle. Que les Françaises et les Français ont envoyé le signal que à l'Assemblée, ça devait discuter. Et donc pour l'exécutif, et en particulier pour la pratique jupitérienne, c'est pas évident, c'est nouveau. Nous, on s'en réjouit. Nous sommes parlementaires et on s'en réjouit. Et mieux, nous sommes parlementaristes. Et on pense qu'à l'Assemblée, il peut y avoir enfin une discussion. Et que là, quand le gouvernement nous propose un filet d'eau tiède sur le pouvoir d'achat, pas du tout à la hauteur évidemment des attentes des Françaises et des Français, nous serons là pour proposer des mesures bien plus ambitieuses. Et nous verrons si le gouvernement veut vraiment avancer ou s'il se contente de son filet d'eau tiède.
Julien Bayou, secrétaire général du Parti écologiste, au micro d'Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
On l'a tous constaté ces derniers jours, ces dernières semaines, à la caisse ou à la pompe, l'inflation est galopante. Elle pourrait même atteindre jusqu'à 7% cet automne, selon l'INSEE.
Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne concerne les 30 millions de Français propriétaires. Maud Descamps, le ministre de l'économie, envisage de limiter la hausse de la taxe foncière.
En effet, c'est ce qu'on m'a confirmé dans l'entourage de Bruno Le Maire. Nous réfléchissons à limiter la hausse de la taxe foncière. M'a-t-on dit, la taxe foncière qui augmente donc mécaniquement en fonction de l'inflation. Pour Pierre Autus de l'Union des propriétaires indépendants, c'est un soulagement.
Limiter la taxe foncière est absolument vital pour bon nombre de propriétaires. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons fait une procédure contre la ville de Marseille qui augmente de 16,5% sa taxe foncière avec 200 propriétaires, des propriétaires occupants comme des propriétaires bailleurs qui voient leur impôt exploser et qui sont parfois en incapacité de subvenir à ce paiement qui devient vraiment beaucoup trop important dans leur budget annuel et quotidien vis-à-vis aussi des augmentations évidemment de l'alimentation, du prix du carburant. différent.
Mais il faudra patienter un peu. Cette mesure devrait faire partie du prochain projet de loi de finances, donc après l'été. Ce ne sera donc pas dans le paquet de mesures du projet de loi sur le pouvoir d'achat qui sera examiné début juillet en Conseil des ministres. Le gouvernement avait déjà pris des mesures pour protéger les locataires face à l'inflation avec un blocage de la hausse des loyers à 3,5% sur un an.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. 6h06 dans la famille Macias. Je demande d'abord le grand-père.
Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays.
Enrico, bien sûr, vous l'aurez reconnu. Et maintenant, il y a aussi le petit-fils, pardon, Simon.
Oui, il se lance dans la musique et sort son premier album.
Oui, ça s'appelle Comme tout le monde, signé donc par le jeune homme de 28 ans. Marie Jiquel l'a rencontré pour Europe 1.
Ouais, je sens qu'il est temps de partir. Mais la musique ne fait que me retenir.
Sous cette tignasse brune, il y a un air de famille.
Mon grand-père, je suis très proche de lui, c'est vraiment on est potes quoi. Vraiment, genre, il y a un truc, on va au resto, on va au stade, c'est mon poteau.
Dis-moi que tu m'aimes, Paris, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que t'es jalouse quand je te quitte pour le week-end.
Des études de cinéma qui l'inspirent peu, la guitare qui s'invite à tous les dîners. Simon a le déclic lors d'une tournée au Canada avec son grand-père Enrico Macias.
Il me dit, mais tu connais pas une chanson de moi, on pourrait peut-être faire un duo ensemble. Et là, j'avais un but. Et il me dit, en revanche, si tu me flingues la chanson, c'est terminé, tu restes à l'hôtel. Et bon, au final, ça s'est bien passé.
Son premier album à la production lumineuse et enjouée s'annonce la parfaite bande-son de l'été.
La variété vraiment des années 60, 70, genre musical, j'adore. Et en même temps, je voulais pas que ce soit vieillot. J'avais envie d'un truc qui est moderne, qui pourrait passer en boîte, qui pourrait passer à un anniv.
Pas de duo avec Papi Enrico, mais le rendez-vous est pris pour le prochain album.
Tu sais, c'est carré dans ma tête, laisse-moi faire la fête, j'aimerais que le temps s'arrête. Ouais, je sens qu'il est temps de partir, mais la musique ne fait que me retenir. Tu sais, c'est carré dans ma tête, laisse-moi faire la fête, fête jusqu'au matin peut-être.
C'est un autre style, voilà, Simon Macias. Alors il y a de la guitare quand même, mais c'est assez différent. En tout cas, un duo avec le grand-père, ça se mérite, hein. C'est pas pour tout de suite.
Affaire à suivre donc, hein, dans la famille Macias. Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal, à tout à l'heure.
Il est 6h08, le journal des sports de Johan Tritz. Et on commence, Johan, avec du tennis et Wimbledon, où la menace du Covid plane au-dessus du tournoi.
Oui, deux candidats au titre ont déjà dû renoncer, le croate Marin Cilic et l'italien Matteo Berrettini, contraint de déclarer forfait après avoir contracté le virus. Les deux joueurs qui se sont en plus entraînés ces derniers jours avec Novak Djokovic et Rafael Nadal. Mais ce problème ne date pas d'hier, la française Alizé Cornet l'avait déjà constaté à Roland-Garros.
À Roland, il y a une épidémie de Covid, personne n'en a parlé, c'est juste qu'on l'a, voilà, dans les vestiaires, tout le monde l'a eu et on n'a rien dit. Donc voilà, on a trois symptômes, on a la gorge qui gratte et puis on joue et puis tout va bien et ça va. Oui, effectivement, à Roland, je pense qu'il y a eu quelques cas et que ça c'est un accord tacite entre nous. On va pas s'auto-tester comme ça pour se mettre dans la merde. Enfin, à un moment donné, il faut être logique, quoi. C'est...
Alizé Cornet qui jouait d'ailleurs hier.
Oui, ça s'est plutôt bien passé pour elle. Victoire de la Française au premier tour et une nouvelle journée ensoleillée pour les Bleus. Le novice Grenier, Bonzi, Gasquet et Gaston sont passés au deuxième tour. Mais l'exploit de la soirée pour Harmony Tan, vainqueur de Serena Williams après un gros combat. Aujourd'hui, 5 autres tricolores sont sur les courts pour le début du deuxième tour, tout comme Novak Djokovic.
J-2 avant le départ du Tour de France.
Qui démarre de Copenhague au Danemark. Tous les principaux acteurs sont sur place et notamment le directeur du Tour, Christian Prudhomme, impatient de faire ce grand départ depuis ce pays de vélo.
Je pense que le Danemark le mérite parce que toute la population est sur son vélo, ils aiment le Tour et il y a énormément de téléspectateurs parce qu'il y a de plus en plus de coureurs talentueux, hommes et femmes. Tout ça fait que nous sommes ici. Je suis très heureux et très fier.
Interview en anglais auprès d'une télévision danoise. Là-bas aussi, le Covid est menaçant. Un premier coureur a été contraint de rester à la maison.
Désillusion hier, Johan, pour l'équipe de France de football U19.
Oui, les Bleus défaits en demi-finale de l'Euro par Israël, 2-1. Ils n'imiteront donc pas Kylian Mbappé et ses partenaires vainqueurs de cette même compétition en 2016.
Merci, Johan. C'était le journal des sports de Johan Tritz.
Restez avec nous dans un instant. Un témoignage très fort, celui du père d'une des victimes des attentats du 13 novembre, dont le procès s'apprête à livrer son verdict. À tout de suite.
5h, 5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h12 et c'est a priori aujourd'hui qu'on connaîtra le verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015. Après les derniers mots des accusés lundi, la cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. C'est l'épilogue de l'audience criminelle la plus longue de l'histoire judiciaire française d'après-guerre. Et à cette occasion, notre journaliste Gladys Laffitte, qui couvre ce procès depuis 10 mois, a rencontré lundi le père d'une des 130 victimes assassinées le soir du 13 novembre.
Jean-Bernard Arouébo, bonjour.
Bonjour, je suis le papa d'Anne-Laure qui a été assassinée à la terrasse de la Belle Équipe le 13 novembre 2015.
Là, on est au palais de justice, les débats viennent d'être clos. Comment vous vous sentez ?
Comme les fois précédentes, chaque fois que nous sommes venus à l'audience, nous avons ressenti une espèce d'impression particulière, teintée de tristesse et d'interrogation. De se dire qu'est-ce que je fais là.
Qu'est-ce que vous êtes venu chercher au début de ce procès?
On ne savait pas trop, on n'a jamais côtoyé vraiment la justice. On savait qu'il y aurait un procès étape indispensable. C'était assez difficile pour moi de m'imaginer à la barre de la cour d'assises pour parler de l'assassinat de ma fille. Sachez qu'Anne-Laure était douanière, mais Anne-Laure aussi elle avait une vie culturelle. Elle était inscrite aux Beaux-Arts à Paris. Elle fabriquait des bijoux. Elle faisait de la couture. Les dessins qu'elle a faits aux Beaux-Arts à Paris, elle ne nous avait jamais montrés. Ça nous a permis, en fait, de mieux connaître notre fille dans un deuxième temps. Alors là, c'était le moment, je crois, le plus sensible, le plus compliqué, le plus difficile. Ça a été le témoignage des parties civiles. Et mon témoignage.
Qu'est-ce que vous avez dit en un mot? Qu'est-ce que vous avez exprimé à la cour?
Que j'étais triste. Que j'étais triste. Mais également, j'avais commencé par ça, que je ne voulais pas que ceux qui étaient là se sentent coupables d'être survivants. J'attendais d'eux qu'ils parlent pour les victimes décédées.
Justement, pendant ces 10 mois, vous avez pu rencontrer des parties civiles, des parents peut-être, des survivants. Est-ce que ça vous a aidé?
Alors, je crois que ça a été un des points forts. C'est effectivement que ce procès nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes. En fait, on a appris ce qu'avaient vécu réellement, non seulement les victimes survivantes, mais les familles de victimes comme nous. Ça nous a d'abord appris ce que l'on ne voulait pas savoir, curieusement, c'est la façon dont notre fille a été tuée. Est-ce que ça nous a permis d'avancer? Je ne suis pas sûr du tout. Nous sommes souvent venus à Paris, de notre province lointaine. C'était un effort de notre part indispensable qu'on devait à Anne-Laure.
Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui?
L'acte d'accusation, les témoignages des victimes, Soraya, la témoin qui a permis d'arrêter un des assassins de notre fille.
Est-ce que vous recevez les excuses de certains accusés?
Non, absolument pas. Et les faits sont trop graves pour qu'on accepte des excuses. Ce ne sont pas pour moi les mots qui sont adaptés, excuses et pardon, avec les faits qui ont été commis. C'est inexcusable et impardonnable. J'ai retenu que le dernier mot qu'a prononcé Salah Abdeslam, c'est injustice. Pour moi, c'est déjà extrêmement choquant.
Qu'est-ce que vous attendez du verdict?
Que la justice passe et que la justice soit sévère, si je peux ajouter un commentaire, un qualificatif. La perpétuité incompressible, oui, si le président et la cour estiment qu'elle est adaptée à certaines des accusées.
Comment vous avez vécu ce procès ensemble, en famille? Comment vous en avez parlé entre vous? 10 mois, vous l'avez dit, c'était long, presque trop long.
Nous sommes une famille très unie. Papa, maman et 3 filles. La deuxième, Christelle, était la plus proche d'Anne-Laure. Et elle a suivi et tient à suivre tout particulièrement tous ces débats. Elle a toujours été à mes côtés. Lorsqu'il a fallu aller à l'Institut médico-légal, lorsqu'il a fallu aller au commissariat de police chercher les affaires d'Anne-Laure, elle était toujours là.
Est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse aujourd'hui ?
Bien sûr. La première, c'est qui a tué Anne-Laure ? Ils étaient trois, mais qui a tué Anne-Laure ? Dans le box, il y avait des accusés, des exécutants, mais les responsabilités politiques, est-ce qu'elles n'existent pas ? Depuis le 13 novembre 2015, des gens sont rentrés par effraction dans notre vie. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous survivons. Nous sommes condamnés à perpétuité. Anne-Laure vit avec nous. Mais la page blanche, depuis le 13 novembre 2015, la page blanche pour les souvenirs est de plus en plus longue. Vous savez, le procès pour nous, c'est pas la fin. La justice va passer, mais la justice ne va pas refaire vivre Anne-Laure. Justice étape indispensable, mais notre quotidien continue. Nous allons continuer à porter des fleurs sur la tombe de notre fille une fois par semaine. Nous allons côtoyer ses amis. Nous allons continuer avec nos souvenirs.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Voilà le témoignage de Jean-Bernard Arouébo, le père d'Anne-Laure Arouébo, l'une des 130 victimes assassinées le soir du 13 novembre 2015. Il répondait à Gladys Laffitte pour Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h18, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
À Madrid, sommet de l'OTAN en ce moment. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, compte appeler aujourd'hui les membres de l'Alliance à augmenter leurs dépenses militaires pour rétablir la dissuasion et assurer la défense au cours des 10 prochaines années. Réponse à la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky doit par ailleurs prendre la parole au sommet aujourd'hui. Le président ukrainien qui a demandé hier au Conseil de sécurité des Nations Unies d'envoyer une commission d'enquête après le bombardement du centre commercial de Kremenchuk qui a fait une vingtaine de morts et puis la fin du procès le plus long de l'histoire française, celui des attentats du 13 novembre. Le verdict est attendu à partir de 17h aujourd'hui. Des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible ont été requises.
On conclut ce petit matin avec votre partition, Omblin. Elle sera ce soir à l'affiche de l'événement gratuit Fnac Live Paris. Jane Birkin montera sur la scène du Parvis de l'Hôtel de Ville pour interpréter ses derniers titres, mais également ses plus grandes chansons, écrites par celui qui restera à jamais son Pygmalion, Serge Gainsbourg.
Lorsque la jeune Britannique s'installe en France à la fin des années 60, Julien, c'est pour devenir actrice. Jane Birkin rencontre Serge Gainsbourg sur le tournage du film Slogan de Pierre Grimblat en 1968. Personne ne peut alors imaginer que ces deux-là vont se plaire. Elle le trouve compliqué et arrogant, lui se montre agacé par son français encore hésitant.
Un soir après le tournage, Serge Gainsbourg lui propose de la ramener.
Jane Birkin n'arrivera jamais chez elle. Commence alors une relation aussi torturée que passionnelle, aussi créative que violente. 12 ans de vie commune rythmée par de nombreuses collaborations artistiques. Quant à leur vie familiale plutôt médiatisée, elle s'articule autour de Kate, la fille que Jane Birkin a eue d'un précédent mariage avec le compositeur John Barry, et Charlotte.
Et à la fin de l'été 1980, Jane Birkin décide de partir, de quitter Serge Gainsbourg.
Oui, parce que le lasser de ses excès, fatigué de cohabiter avec ses démons, et lui, eh bien, il ne supporte pas l'infidélité.
Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve que le ciel azuré, vire au mauve, penser ou passer autre chose vaudrait mieux. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut, le soleil above, radieux.
Quand elle claque la porte du 5 bis rue de Verneuil à Paris, Jane Birkin demande à ses filles de ne prendre que l'essentiel.
Elle laisse Serge Gainsbourg assis dans la cuisine, le cœur en miettes, et elle va s'installer à l'hôtel Hilton Suffren. Jane Birkin part aussi pour rejoindre le cinéaste Jacques Doyon. Une rupture nette, brutale, qui secoue le chanteur. Il dit « J'ai cru toucher le fond de la piscine et je me suis aperçu qu'il y avait un double fond. » Il trouve refuge chez Gérard Depardieu pour noyer son chagrin.
Serge Gainsbourg finit par endosser la responsabilité de la séparation. génération.
Il décide de devenir l'ange gardien de celle qui était sa muse. Il veille sur la vie et sur la carrière de Jane Birkin, désormais séparée. Chacun ayant refait sa vie de son côté, Serge Gainsbourg lui propose des nouvelles chansons. Elle dit « Je n'ai pas besoin de faire un disque ». Il lui répond « Je te le dois ».
Les dessous chic, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les dessous chic, c'est une gentelle qui claque dans la tête comme une paire de claques.
Alors qu'elle ne l'a jamais vu véritablement travailler, Jane Birkin assiste cette fois à tout le processus de création.
Serge Gainsbourg écrit frénétiquement jour et nuit, arrive à tenir grâce au café et aux cigarettes, mais pas une goutte d'alcool. Elle recopie les chansons en phonétique. Cette œuvre musicale qui est en train de naître est teintée d'amertume et de mélancolie. Il m'a donné sa douleur à chanter, explique Jane Birkin. Elle chante devant Serge Gainsbourg, installé derrière la vitre du studio d'enregistrement, entonne les paroles aussi haut que possible. Elle raconte « La seule chose que je pouvais faire était d'essayer de l'épater ».
5 jours suffisent pour élaborer l'album « Baby Alone in Babylon ».
Jane Birkin et le producteur et arrangeur Philippe Le Richomme, alors aux manettes, se disent parfois qu'il faut refaire, reprendre un passage. Mais Serge Gainsbourg s'en fiche pas mal d'atteindre une certaine perfection. Tout ce qui compte, c'est l'émotion. Plus tard, lorsqu'elle enregistre la chanson « Quoi ?», la chanteuse a du mal, pense avoir raté. Et après avoir écouté les bandes, Serge Gainsbourg l'appelle en pleurant « Parce qu'à lui, ça lui a plu.
Quoi ? Notre amour fou ne resterait que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour des cendres. Toi, tu me dis que tu ne veux pas la corde pour te pendre. Joie et douleur, c'est ce que l'amour engendre. Sois au moins conscient que mon cœur peut se fendre. Sois, dit en passant, j'ai beaucoup à apprendre. Si j'ai
Ils ont connu leur plus grand succès après leur séparation, Jane Birkin sur des mots et des notes de Serge Gainsbourg, la chanson « Quoi ?» en 1985, Jane Birkin en concert gratuit ce soir à l'occasion du Fnac Live Paris sur le parvis de l'Hôtel de Ville.
Merci beaucoup, Ombline. Si on veut bien m'ouvrir mon micro, vous restez avec nous dans un instant. Bah, tant mieux, de toute façon mon micro va s'éteindre puisqu'on va passer le micro à Dimitri Pavlenko. À tout de suite.